Philippe Vandel.
Merci d'avoir choisi Europe 1 à l'instant si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet, le garçon qui pointe tous les jours son télescope sur la planète médiatique. Et il l'a pointé aujourd'hui, évidemment, sur Le Magnifique. Notre invité, le comédien Pierre Ninet, pour un film qui sort en salle demain, dont il incarne le premier rôle, Boîte Noire. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui lui est arrivé avant la célébrité, même si elle a été célèbre très très jeune. Et puis Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission avec les stories de Lebray. Bonjour Stéphanie Loire.
Salut Philippe.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe.
Bruno Donnet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici le traitement de l'info, entre autres par les télévisions. Hier, vous avez eu beaucoup de travail à partir de 16h21, l'heure à laquelle toutes les chaînes ont appris la mort de Jean-Paul Belmondo.
Oui, alors si vous n'étiez pas encore totalement persuadé, cher Philippe, que les journalistes sont souvent incroyablement moutonniers, accrochez-vous bien, car je pense que ce que vous allez entendre ce matin devrait achever de vous convaincre. Vous êtes prêts? Allez hop, je vous raconte. L'après-midi avait démarré très tranquillement, dans le doux ronron du petit train-train de l'information, lorsque, tout à coup, l'énorme breaking news est tombé dans l'oreillette des présentateurs.
Priorité au direct, si vous nous rejoignez, édition spéciale, parce que Jean-Paul Belmondo est décédé.
Alors, toutes les chaînes info, sans exception, se sont mises à faire exactement la même chose, à utiliser les mêmes mots et à inviter partout les mêmes personnes. D'abord, elles ont eu envie de recueillir des réactions émues. Bon, BFM TV a commencé un peu mollement avec le patron du resto préféré de Belmondo qui nous a livré une information, comment dire, pas tout à fait primordiale.
Jean-Paul Belmondo adorait tout ce qui était hachis parmenté et puis il aimait bien manger un steak haché.
Du coup, la chaîne a décidé de muscler un peu son casting et elle a appelé
Ariel Dombal, merci beaucoup d'être avec nous.
Problème, la qualité de la communication avec Ariel Dombal était épouvantable et on n'y comprenait pas grand-chose. Bon, pas grave, car devinez un peu qui était aussi sur LCI.
Ariel Dombal est en ligne avec nous, merci beaucoup d'avoir répondu, Ariel Dombal.
Ariel Dombal qui avait retrouvé de la voix et du réseau.
C'était un être du rire, de la cascade du rire.
Voilà, alors du rire, il n'y en a pas eu énormément hier. En revanche, de la cascade. Je vous en ai trouvé à la pelle dans les archives de France Info.
Il y a beaucoup de gens quand même qui m'ont vu faire des cascades.
Mais également dans celles de France 3.
Ils savent que je les fais moi-même et que je ne me fais pas doubler.
Dans les commentaires du 19-20.
Des films dans lesquels il effectue lui-même ses cascades.
Mais aussi dans ceux du 19-45 d'M6.
Des cascades risquées, l'acteur ne triche pas, comme à son habitude et au péril de sa vie, il les exécute lui-même.
Sans oublier le fameux micro-trottoir du 20h de TF1.
Il faisait les cascades lui-même.
Ou encore de France 3.
Ben, un acteur qui a fait beaucoup de cascades par lui-même.
Tout comme dans les réactions d'anonymes compilées par France 2.
Puis j'admirais le fait qu'il faisait lui-même ses cascades.
Ouais. Ouais, bon, si j'ajoute à tout cela, Philippe, que Gilles Boulot a ouvert son 20h avec des mots...
parce qu'il était d'une certaine manière la quintessence de l'esprit français, la gouaille, le panache, la débrouille, le sens de la réplique qui fait mouche.
Qui étaient pratiquement les mêmes que ceux avec lesquels Anne-Sophie Lapix a débuté le sien.
Une figure qui incarnait la fougue, la force, l'agilité, l'humour.
Et que tandis que TF1 recevait...
Bonsoir Claude Lelouch, merci, merci beaucoup d'être avec nous.
Claude Lelouch, France 2, avait invité...
Et nous sommes en direct avec Claude Lelouch, merci d'avoir accepté notre invitation.
Vous allez finir par trouver que mes méthodes sont un affreux moyen, ouais, odieusement détourné, de vous recoller un peu de bébelle dans les oreilles, et que c'est tout de même totalement dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est dégueulasse?
Ce à quoi je vous répondrai que oui, vous avez parfaitement raison, mais que si vous n'aimez pas la montagne qu'a été cet immense comédien, si vous n'aimez pas la mer de la nouvelle vague qu'il fut, bref, si vous n'aimez pas tout ce que symbolisa Belmondo...
Allez vous faire foutre.
Bonne journée et à demain.
Va enchaîner après ça, tiens. Merci Bruno Donnet, à demain. Stéphanie Loire, Clément Le Saffre, vous avez entendu sourire. Stéphanie Loire, le programme de votre indispensable ce matin, je le sais, mais je ne dis pas tout, c'est un hommage.
C'est un hommage à Jean-Paul Belmondo particulier, puisque ce sera au travers des musiques de ses films les plus populaires et les plus cultes qu'on va revenir sur sa carrière.
Et Clément Le Saffre, c'est aussi un hommage.
Oui,
que vous
je vais rendre hommage à un acteur aussi, mais ce n'est pas celui auquel on pense.
Dans un instant, Pierre Ninet, le comédien, pour parler du film Boîte Noire qui sort demain. Mais d'abord, musique avec Oshi sur Europe 1.
Depuis ses lèvres contre les tiennes, j'ai comme un poison dans les veines. Y a mon âme coincée sous les verres et dans ma bouche un goût amer. Je rêve seul avec mes acouphènes. T'as mis mon cœur en quarantaine. Mon amour, tu m'as mise à terre. aveugle et sourde et sans repère. Je te pardonne pour mon cœur fracassé, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait, je te pardonne d'avoir tout niqué, je te pardonne. Je voudrais oublier, je me sens conne, j'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes, que l'amour fait crever, je te pardonne. La nuit est longue, je me sens si seule. Mes rêves s'effondrent, ils tirent la gueule. Notre lit devient comme un cercueil. Mes pleurs se fondent avec la table. La nuit est longue, je me sens minable. Mes rêves s'effondrent et je pète un câble. Dans notre chambre, je vois même le diable. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier, je me sens comme. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, j'en ai vu assez. Les couleurs, j'ai broyé bien plus que du noir sur la palette de la douleur. Toutes les variantes du désespoir. Y'a toi qui peux me consoler, pourtant c'est toi qui m'as blessé. C'est plus pareil, je nous vois flou. Je sens son odeur sur tes genoux. Je suis comme un soldat fusillé. J'ai pas vu l'ennemi arriver, mais j'ai appris à prendre les coups. Je compte bien me battre jusqu'au bout. Je te pardonne, on va tout reconstruire. Je te pardonne, je sais qu'on va guérir. Je te pardonne, je peux pas faire autrement. Je te pardonne, ça sera beau comme avant. Je te pardonne, accroche-toi à mes bras, abandonne tous les manèges à trois, je m'en tamponne. Du temps que ça prendra, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne. Je te pardonne.
Je te pardonne, c'est Oshi qui dit ça en direct sur Europe 1 avec nous, Pierre Ninet tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Bonjour Pierre Ninet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Culture Média, comédien surdoué, faut-il le répéter, César du meilleur acteur en 2015 à 26 ans pour votre interprétation d'Yves Saint-Laurent. Je vais également citer 20 ans d'écart, l'Odyssée ou Un homme idéal, un peu ce que pensent de vous beaucoup de gens dans le métier. Votre actualité, c'est Boîte Noire, film de Yann Gozlan que vous retrouvez avec Lou Delage et André Dussolier. Le film sort demain, prix du public au Festival du film policier de Reims. Le magazine Première parle d'un polar mental. La boîte noire, elle est orange, mais à part ça, tout est d'un réalisme saisissant. Qu'est-ce que ça raconte en quelques mots ?
On suit Mathieu Vasseur, qui est un jeune enquêteur et acousticien d'un bureau qu'on ne connaît pas assez en France, qui est le BEA, qui enquête sur les crashs et les accidents d'avion. Et puis, il va être projeté pour la première fois chef d'une grosse enquête sur un gros crash d'un Paris-Dubaï. Et on va lui demander d'essayer de... d'extorquer la vérité de ce fameux objet où il y a tant de fantasmes autour et donc de comprendre ce qui s'est passé dans cet avion en écoutant cette boîte noire. Et puis, il va se retrouver pris dans un engrenage qu'il dépasse complètement.
On va entendre la bande-annonce.
Crash dans les Alpes, un Atrian 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers.
Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires.
Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements.
C'est bon, c'est exploitable.
Concentrez-vous sur ce qu'on entend.
J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée.
Vous avez intérêt à avoir raison.
Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes.
Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu.
Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences.
T'es en train de te monter la tête.
La vérité sur le crash, moi je la connais.
Vous êtes allé trop loin.
Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires.
Travaille sur le son absolument prodigieux. Il écoute l'enregistrement de la boîte noire, celle qui a capté les derniers moments. Il y a beaucoup de travail. La thèse de l'attentat est privilégiée, mais il découvre certaines incohérences. Qui est-il humainement, Mathieu Vasseur, votre personnage ?
C'est un grand professionnel, obsessionnel, on va dire presque peut-être sur le spectre de l'autisme. Son rapport aux autres est assez limité. Par contre, il est absolument passionné. Il a une oreille remarquable et là il a des intuitions, des instincts très forts, mais justement le film c'est toute une bataille entre les faits objectifs et puis juste ce qu'on peut appeler une intuition et il y a une bataille là-dessus et donc évidemment il va rentrer l'idée de la paranoïa, du soupçon, du doute, on commence à douter de tout le monde, ça vient jusque dans son couple. Le but, c'est que le spectateur soit très actif à se poser énormément de questions sur chaque personnage. Personne n'est innocent et puis voilà, il s'en dégage une paranoïa qu'on a travaillée et qu'on a pris plaisir à travailler. Ouais.
C'est souvent comme ça dans ces métiers-là ou pas du tout ? Parce que les fondements sont très très réalistes dans ce film.
Oui, complètement. Ouais. Yann Gozlan, le réalisateur, je trouve fait un travail vraiment remarquable sur le film de suspense et le thriller. Et on doit être très fier en France d'avoir des gens qui savent le faire, quoi, de ne pas laisser le thriller forcément aux Américains. Parce que franchement, ce film, moi j'en suis hyper fier. Il n'a rien à envier aux Américains. Et c'est un métier... Je ne sais pas si c'est un métier paranoïaque, mais c'est un métier très particulier. C'est des gens quand même qui sont... Moi, je suis allé au BEA, ils ont leur badge, ils boivent des cafés, ça ne paye pas de mine l'endroit. Et c'est quand même des mecs qui écoutent des boîtes noires avec les dernières conversations des pilotes avant potentiellement un crash mortel pour des centaines de gens.
Vous avez fait plus qu'y aller au BEA Pierre Ninet. Vous êtes allé avec votre caméra, vous avez fait une sorte de reportage sur quelqu'un dont le métier était justement d'écouter ces boîtes.
J'ai trouvé le profil de quelqu'un qui ressemblait beaucoup à mon personnage dans Boîte Noire. Et une fois que je l'ai trouvé, je ne l'ai pas lâché. Alors, c'est un métier assez solitaire, voire un peu geek. Donc, il fallait un peu l'amadouer. Ça m'a pris quelques jours de venir, de revenir, de lui dire est-ce que je peux prendre des notes ? Est-ce que je peux prendre des petites photos ? Est-ce que je peux te filmer ? Voir un petit peu la rapidité d'exécution qu'il avait sur son clavier, comment il écoutait des boîtes noires. Après, il m'a proposé d'écouter des boîtes noires aussi. Donc, j'ai entendu ces fameuses conversations entre les pilotes qui parfois sont des conversations très privées de mecs qui se parlent juste de leurs vacances et de leurs femmes. Et voilà. Donc c'est assez particulier et puis j'ai fait un travail de journalistique tout simplement pour vraiment être le plus fidèle possible en racontant cette profession si particulière qu'on découvre dans le film.
Travail journalistique, c'est Lisa Marie Marquez qui arrive dans ce studio. Avant d'être connue, vous n'étiez pas connue. C'est le portrait pré-fame. Culture Média continue, on est en compagnie de Pierre Ninet et on en est ravis.
9h-11h, Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie du comédien Pierre Ninet, je rappelle Boîte Noire, film de Yann Gozlan, ça sort demain dans toutes les bonnes salles de cinéma, c'est avec Lou Delage et André du Soleil. On va ouvrir une autre sorte de boîte noire, peut-être pas si noire que ça, j'espère. Bonjour Lisa Marie Marquez.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes avec nous pour faire le portrait de l'invité, mais un portrait inédit, le portrait de l'invité célèbre, mais avant sa célébrité.
Eh oui, bonjour Pierre Ninet.
Bonjour.
Vous êtes comédien et réalisateur, plus jeune pensionnaire de la Comédie Française à 21 ans, plus jeune comédien à recevoir un César du meilleur acteur à 26 ans. Mais comment en êtes-vous arrivé là, Pierre Ninet ? On va revenir ensemble sur votre jeunesse et sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vous êtes né à Boulogne-Billancourt, près de Paris, une enfance baignée dans un univers créatif, auprès de vos deux grandes sœurs, de votre père professeur de cinéma et de votre mère prof d'art plastique. Pierre Ninet, dès votre plus jeune âge, vous avez mis toute votre énergie à raconter des histoires. À l'âge de 6 ans, vous êtes au théâtre et en pleine représentation, vous interpellez le comédien sur scène. Ça a fait rire toute la salle et ça vous a donné envie de jouer la comédie. Tout comme les acteurs comiques que vous admirez, Louis de Funès, Jim Carrey ou Charlie Chaplin, notamment Dans le film Le Dictateur, on écoute un extrait du célèbre discours.
Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Vous avez 10 ans lorsqu'un jour votre père rentre du travail et rapporte une caméra VHS. Vous tournez alors un film d'horreur avec votre sœur et son nounours. Le scénario est très simple. Cochonours, le nounours, couteau à la main, veut vous tuer. Vous utilisez du ketchup pour faire du sang et vous tournez plusieurs versions. Mais est-ce que ça finissait bien ?
Ça finissait pas, je crois. Ouais. C'était un film très décousu. C'était un peu du Michel Gondry, quoi, du homemade, ouais. Homemade un peu bordélique, mais qui avait son charme. Mais vous êtes bien renseigné, je suis très inquiet.
Ouais. Vous avez vraiment ouvert le nounours avec un couteau ?
Non, c'est le nounours qui avait le couteau. C'était vraiment Chucky. C'était voilà ça.
Plus jeune, vous rêvez de devenir pilote de ligne jusqu'à ce que vous découvriez que vous êtes myope et daltonien.
Non.
Et que pour être pilote d'avion, il faut être très très bon en maths.
C'est vrai ça aussi ?
Ouais, j'étais nul en maths et daltonien. Et myope, ouais.
Et c'est pour ça que vous n'avez pas été pilote d'avion ?
Ouais, sinon ils m'avaient proposé. Air France m'avait. Non, je blague. Je rêvais juste de ça comme un gamin. Je me disais, j'aimerais trop être pilote.
Non, j'en parle parce que c'est le cas de votre héros.
Oui, complètement.
Qui peut pas être pilote d'avion parce qu'il est myope.
Complètement.
C'est incroyable que ce soit l'histoire
d'un Ninet. Hasard du scénario et c'est totalement vrai.
Côté sport, vous avez pratiqué le basket. D'ailleurs, si vous n'étiez pas devenu comédien, vous auriez voulu être basketteur professionnel. Vous avez aussi fait du football au poste de gardien de but. Mais là, c'était moins glorieux. On vous surnommait la passoire.
Non.
Si, totalement.
Oh, les
ouais,
dossiers.
J'ai fait du foot. J'adorais le poste de gardien parce que je trouvais qu'il y avait un côté un peu, je sais pas, protecteur de toute l'équipe.
Et puis on a un autre maillot.
On a un autre maillot, c'est vrai. Tiens, je voulais déjà me faire remarquer. Mais non, j'étais catastrophique, vraiment. Et oui, tout le club m'appelait la passoire.
C'était à quel âge ? Vous étiez en poussin, en mini,
ouais,
en cadet ?
11 ans, 12 ans. Ouais, juste assez de quoi me traumatiser de me faire appeler la passoire et d'arrêter de me mettre au basket.
Pardon d'avoir ri, j'arrête.
Pierre Ninet, vous commencez le théâtre à 11 ans et vous découvrez le super pouvoir de la scène. Du collège jusqu'au lycée, vous suivez des cours de théâtre et un agent vous repère sur scène alors que vous jouez un chien. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. J'étais au lycée Claude Monet dans le 13e arrondissement à Paris, qui est un super établissement pour le théâtre. Et personne ne voulait jouer le chien dans cette pièce de fin d'année. Moi, je venais de voir Didier et je me disais, mais un rôle de chien, c'est exceptionnel. Ouais. Au contraire.
Didier, le film de Chabat.
Ouais, Didier, le film avec Chabat qui interprète un chien. Et puis surtout, je trouvais ça génial de faire un animal et la liberté que ça offrait. Donc, j'étais le seul mec du bahut à avoir dit, bah, moi, il y a une fille qui avait vraiment pleuré quand on lui avait distribué le rôle du chien. Et moi, j'ai dit, bah, si tu veux, moi, je le veux bien. Donc, on m'a donné ce rôle de chien et je m'étais régalé à faire ça. Je jouais pas que ça dans la pièce, mais c'est vrai que c'est la première fois que mon agent, Brigitte Descormiers, que j'embrasse très fort, avec qui j'ai travaillé très longtemps, m'a repéré. Ouais.
En même temps que votre bac littéraire théâtre, vous réussissez la classe libre du cours Florent et vous décrochez votre premier rôle devant la caméra dans La Dame d'Izieux, un téléfilm historique avec Véronique Jeunesse. Nous sommes en 2008. Un an plus tard, vous intégrez le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris et vous écrivez, vous mettez en scène et vous jouez dans votre première pièce de théâtre, Cyprès de Ceuta, qui met en scène la rencontre de deux gardes-frontières avec des migrants. À 21 ans, vous intégrez la prestigieuse troupe de la Comédie française. Vous jouez des grands textes classiques, Racine, Shakespeare, Feydeau ou encore Marivaux. Parfois, vous n'avez qu'une seule phrase à dire sur scène, mais qu'importe, vous apprenez. En parallèle, vous décrochez des petits rôles au cinéma, par exemple dans le film LOL de Lisa Azuelos, où vous jouez Julien, l'ami d'enfance de Lola.
Vous faites chier, mec, avec votre respect, franchement.
Putain, les meufs, alors quand on vous respecte pas, on est des gros bâtards. Puis quand on vous respecte, ça vous fait chier, c'est ça ?
Mais c'est pas ça, Julien, mais c'est juste pas... Ça fait 8 ans qu'on se connaît.
Mais justement, Lola, justement. Et est-ce que moi, je vais voir les gens en leur disant « Est-ce que tu veux coucher avec moi ? Est-ce que tu veux coucher avec moi ?» Attends, qu'est-ce que tu dirais, hein ?
Je te dirais oui.
Eh ben, moi, je dis non. Voilà, non.
Tu as bien compris.
Entre le cinéma et le théâtre, votre cœur balance. Mais pourquoi choisir ? Vous passez de nombreux castings. Vous continuez d'apparaître sur grand écran et sur scène. Vous enchaînez les petits rôles et les pièces de théâtre jusqu'à décrocher votre premier grand rôle dans le film « J'aime regarder les filles ». À peine connu, vous êtes nommé pour le César du meilleur espoir masculin. Ce ne sera pas pour cette fois. Votre film suivant, Comme des frères, d'Hugo Gélin, vous vaut une seconde nomination. Il faudra attendre encore un peu pour la consécration. En 2013, vous jouez le créateur de mode Yves Saint Laurent. La suite, on la connaît. Ouais. Et moi, je m'arrête là.
Et là, c'est la fame.
Bravo, merci.
C'est parti de votre playlist, ce titre.
Là, j'adore ouais. ce titre. Ouais. Et vous avez une super diction.
Ah, merci.
Ouais, vraiment. Voilà, je tenais à le dire.
c'est
pas tout le monde. Non, mais non. Elle a une très belle diction, vraiment.
Merci pour ce compliment, pour les avaries. juste un mot, vous lui avez dit quoi au comédien que vous avez interpellé sur scène quand vous aviez 6 ans?
Oh, je sais plus, mais je sais. Je réagissais à la pièce. Ouais. Je réagissais à la pièce, quoi. Je lui disais, mais non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi lui, il est parti? Enfin, en guignol, quoi.
Oui.
En zéro inhibition.
Ouais.
Et il m'avait répondu. J'avais trouvé ce moment assez magique parce qu'il avait improvisé. Et du coup, ça avait fait rire les 500 personnes du théâtre. Et je m'étais dit, waouh, c'est assez magique.
The Wire, vous regardiez?
Pas du tout, The Wire, j'ai jamais commencé encore.
Alors justement, c'est l'occasion ou jamais. Notre premier indispensable, c'est Clément Le Saffre. Il devait nous parler d'un manga ou d'un comics. Il a tout changé après avoir appris la disparition de l'acteur américain Michael K. Williams, qui est dans The Wire, justement. On en parle juste après ça. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. À demain.
À demain.
Avec cette diction excellente. Dixit Pierre Ninet, à tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Boîte Noire, le film dont notre invité Pierre Ninet est tête d'affiche. Vous incarnez Pierre Vasseur, travaille... Mathieu Vasseur, pardonnez-moi. Oui, il écrit Mathieu devant moi, j'ai lu Pierre. C'est l'inconscient. Voilà, c'est le début de semaine. Il est marié à Noémie, incarnée par Lou Delage, femme très carriériste également. Et ils font un petit peu le même métier, mais différemment. Et leur relation est, comment dire... Et professionnelle, elle est tendue quand même, cette relation.
Elle est tendue, c'est des gens brillants, effectivement, carriéristes, très ambitieux, ça parle vite. Yann nous parlait souvent de social network, dans ce côté jeunes gens, modernes et qui avancent vite. Il y a à la fois une admiration pour ces gens possible et en même temps une froideur aussi dans ce couple qui va effectivement connaître presque des soucis, la paranoïa déjà va infuser même dans ce couple parce qu'il y en a une qui certifie les avions et lui, l'autre qui enquête sur les problèmes que peuvent avoir ces avions. Donc forcément, ça va créer du doute et des problèmes dans ce couple.
Mathieu se met à douter donc de sa propre épouse, vous l'avez dit. Dans cette scène, il se parle même par visio.
Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai des doutes sur le crash. Il y a des anomalies, des incohérences.
Des incohérences?
C'est compliqué d'en parler là, comme ça, mais c'est... J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le CVR.
Comment ça, un problème?
Je t'en parlerai. Je t'en parlerai.
C'est une grosse affaire, chérie. Garde la tête froide cette fois.
Et il y a une histoire dans l'histoire autour de Lou Delage. Elle n'était pas l'actrice pressentie. L'actrice pressentie s'est désistée au dernier moment. Et donc, Lou Delage est arrivée seulement une semaine avant le tournage. Alors, je peux vous dire, j'ai appris cette histoire après avoir vu le film. Et j'avais l'impression que le film avait été écrit pour elle.
Bah, je suis totalement d'accord. Parfois, il y a des hasards comme ça, de planning, de calendrier, de désistement, de gens qui arrivent au dernier moment. Et en fait, ça fait encore plus la magie du film. Et là, je trouve que c'est le cas. Lou Delage, qui est une actrice magnifique, ultra talentueuse, on ne l'a jamais vue comme ça. Elle a un côté hyper... femme très forte.
Elle est à la fois hyper féminine et hyper presque masculine.
Ouais, et elle a un côté glaçant aussi dans le film, de par son professionnalisme, sa détermination et une douceur aussi parfois dans d'autres scènes. Mais je trouve que ce look, cette tête, enfin, faut aller voir vraiment. On l'a jamais vu comme ça, Lou, et c'était un vrai cadeau finalement du destin que ce soit elle et qui a fait une préparation express en une semaine avant de tourner. Ouais.
Voilà, l'actrice qui a refusé le rôle doit être contente de vous entendre, je ne la connais pas et ne la dites pas, ne fâchons personne.
Les doigts.
Clément Le Saffre, rebonjour.
Rebonjour Philippe.
Vous êtes fan de séries à la base?
Moi j'aime beaucoup les séries, ouais, de plus en plus évidemment.
Clément a changé ses plans, il voulait faire un indispensable un peu spécial ce matin. Clément voulait rendre hommage à un acteur décédé hier, mais pas celui auquel on pense ici en France.
Exactement, parce qu'il arrive que quand une star meurt, eh bien, il y en a une autre, un peu moins connue, qui meurt le même jour et qui reste un peu du coup dans l'ombre. Pensez, le plus connu, l'exemple, c'est Farrah Fawcett et Michael Jackson. Et hier, c'était Michael K. Williams qui a été retrouvé mort chez lui à 54 ans d'une possible overdose, quelques heures seulement après donc Jean-Paul Belmondo. Alors Michael K. Williams, ce nom ne vous dit peut-être rien.
Moi, ça me dit rien.
C'est un acteur américain qui a joué dans plusieurs séries et notamment The Wire, le chef-d'œuvre de David Simon, unanimement reconnu comme l'une des meilleures séries de tous les temps. If you walk through the garden, you better watch your back. The Wire, le magnifique portrait social des quartiers pauvres de Baltimore. 5 saisons racontées à travers une galerie de personnages inoubliables, hein, des mafieux, des dealers, des policiers, des politiciens, des journalistes. Autant de clans qui se combattent, s'allient, se trahissent. Et au milieu de tout ça, il y a Omar.
Et donc c'est le personnage interprété par Michael K. Williams.
C'est ça, exactement. Un personnage auquel l'acteur a donné son physique, le regard froid et le visage barré par une cicatrice due à une bagarre entre bandes à 25 ans. Ses rivaux lui avaient tailladé le visage avec des lames de rasoir. Il s'en est servi pour construire le personnage d'Omar Little, un gangster solitaire, redouté, qui ne roule pour personne et qui soigne ses entrées. Un sifflement et c'est tout le quartier qui s'enferme à double tour. Il faut dire qu'Omar ne fait pas dans la dentelle avec son gilet pare-balles et son fusil à pompe caché dans son grand imper noir. Quand il vous rend une visite, c'est rarement pour prendre le thé.
What y'all niggas want, man? Money? You still don't get it, do you? It ain't about your money, bro. Well, get on with it, motherfucker.
Un gangster, donc, qu'est-ce qu'il distingue des autres personnages du genre ? Pourquoi cette admiration ?
Eh bien, derrière la cicatrice, Michael K. Williams avait insufflé énormément d'humanité à son personnage. Un Omar est un tueur au sang-froid, ok, mais il revendique un code d'honneur, et c'est ce qu'il explique ici, voix cassée à un policier.
Since you're feeling all biblical and righteous and all, you think on this. Now, if Omar ain't killed that delivery lady, somebody else did. But you giving him a free walk right now, though, ain't you? A man got to have a code.
Un homme doit avoir un code. Celui d'Omar était simple. On ne tue pas le dimanche, on ne trahit pas et on ne tue pas les gens qui ne sont pas dans le game, c'est-à-dire qu'on ne tue pas d'innocents. Une droiture finalement dans le crime qui en a fait le personnage préféré de nombreux spectateurs, dont un certain Barack Obama qui l'a revendiqué. Et puis Omar était un personnage complexe, mouvant. On découvre ainsi en cours de série qu'il cache son homosexualité, une dualité qui était assez inédite quand même à la télé en 2002. Et derrière ses airs de gros dur, Michael K. Williams transmettait énormément de sensibilité.
Et c'était le rôle d'une vie pour lui ?
Complètement. Omar, c'était son premier vrai rôle. Lui qui n'avait pas grandi dans un milieu privilégié, ne vient pas du monde du cinéma, il a grandi dans la rue. Il a mis beaucoup de lui-même dans ce rôle. Lui qui a effectivement été cabossé par la vie, une jeunesse troublée, des addictions à diverses drogues. Il était Omar et il confiera d'ailleurs avoir eu beaucoup de mal à gérer la fin de la série. La suite de la carrière de Michael K. Williams a d'ailleurs été plutôt faite de second rôle, hein, 12 Years a Slave, Boardwalk Empire, Gone Baby Gone, une belle filmographie, mais pour beaucoup de monde, il restera Omar Little, sa force fragile, son code et son sifflement.
Merci beaucoup Clément Le Saffre. Vous connaissez cette série, Pierre Ninet ?
Non, mais on ne tue pas le dimanche, c'est un truc qui me parle. J'essaie d'apprendre ça à mes enfants. C'est
important. Ça vous a donné envie de vous y mettre à cette série ?
Ouais, mais ça fait longtemps que je sais que je dois m'y mettre à The Wire, donc il va falloir que je le fasse, comme lire Proust. Enfin voilà, j'ai tout un petit
programme. Les deux prennent du temps.
Mais The Wire, ça va quand même plus vite que Marcel. Merci beaucoup Clément Le Saffre. Dans un instant, notre deuxième indispensable. Alors, on va parler musique avec Stéphanie Loire. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
En compagnie de Pierre Ninet, à qui je présente Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Philippe, bonjour Pierre, bonjour à tous.
Ce matin, Stéphanie, vous rendez hommage à Jean-Paul Belmondo au travers de la musique de ses films cultes. Mais avant que vous commenciez, est-ce que vous connaissez le lien entre ce DJ mondialement connu et Jean-Paul Belmondo ? Vous connaissez ça ?
Je connais ça, mais je ne sais même pas qui c'est.
J'ai la réponse, mais je ne dis pas.
Bob Sinclair. Et Bob Sinclair, c'était le nom de Jean-Paul Belmondo dans le film Le Magnifique de Philippe de Broca en 73. Il était fasciné par ce film, d'où le nom de Bob Sinclair.
Et ça, c'était un hommage. Alors, en tout cas, Jean-Paul Belmondo n'a pas fini d'inspirer les artistes. Il est aussi lié à jamais aux bandes originales de ses innombrables films, 80 au total, et presque autant de thèmes célèbres auxquels il est attaché dans l'imaginaire collectif.
Ça, je connais.
Moi, j'en ai aucun, je suis...
Non ?
Ouais.
Ah ouais, en fait, on va faire un blind test, j'avais pas prévu ça,
c'est bien. Aucun. Ouais, moi, je vais être nul.
Non. Le film, bah, vous l'avez, Philippe ?
Je l'ai parce que c'est écrit, parce que je l'ai
écrit. Sinon, vous l'auriez pas ?
Oui, non. Oui, j'ai... Alors, moi, je sais que c'est Borsalino. Liste, je vais en avoir un peu plus aussi,
c'est
je pense.
C'est Borsalino.
Et si on me donne la feuille, c'est encore plus simple.
Bah, c'est ça.
C'est le film de Jacques Deray dans lequel Jean-Paul Belmondo brille aux côtés d'Alain Delon dans le Marseille des années 30. Un thème signé par le compositeur attitré de Jacques Deray, Claude Bolling, en 1970. Un morceau un peu chelou, un peu bizarre. Vous entendez comme il sonne sur un piano soprano bastringue qui est soigneusement désaccordé pour donner ce son un peu particulier qui a porté les répliques de Bebel devant 5 millions de personnes dans les salles de ciné à l'époque. Parmi les bandes originales légendaires qui ont accompagné la carrière de Bebel, il y a celle qui a marqué tous les esprits, à tel point que les deux tiers des gens qui sortaient des salles de projection quand ils sont allés voir au cinéma mentionnaient en premier la musique du film.
Ça, vous connaissez ?
Bien sûr.
Ah, il dit pas la réponse. Ah.
Il en a une.
J'ai gagné un point.
Très bien. Immense succès en 1980, un film réalisé par Georges Lautner, dialogué par Michel Audiard, qui a offert à Jean-Paul Belmondo l'un de ses rôles les plus populaires. Bebel sera sublimé par la musique qu'on entend, celle du génie Ennio Morricone, une bande-son qui décrochera un disque d'or et une nomination au César en 1982. Morricone l'avait initialement écrite pour un autre film qui s'appelle Maddalena, qui est lui sorti 10 ans avant. Mais c'est Jean-Paul Belmondo qui a insisté pour qu'elle soit la bande originale du film, puisqu'il avait entendu à la radio. Il a eu raison d'insister. Et même si la musique qui résonne aujourd'hui dans nos esprits, c'est avant tout celle de la voix de Bebel.
Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
On a aussi en tête les notes de jazz du compositeur Martial Solal qui a signé la bande-son du révolutionnaire À bout de souffle, premier film du jeune réalisateur Jean-Luc Godard en 1959.
C'est du graphone, j'adore.
C'est beau, hein. Le jazz est libre, en perpétuel mouvement, empreint d'une énergie juvénile, comme Bebel dans cette mise en scène de Godard, et comme il l'a été d'ailleurs toute sa vie. Et puis, en 1989, sous la direction de Claude Lelouch et aux côtés de Richard Anconina, Bebel trace l'itinéraire d'un enfant gâté sur les notes de Francis Lai. Qui va beaucoup nous manquer. On a l'habitude de dire que les comédiens sont des instruments. Vous êtes un instrument, terminé. Si certains sont des orgues, bon, tant pis. Eh bien, Jean-Paul Belmondo, lui, était un Stradivarius. Vous êtes un super saxo, vraiment.
Ok, mais c'est déjà pas mal. J'ai très, très peur d'être un triangle.
Je vous le cache pas.
Francis Lai a composé une très, très jolie chanson, d'ailleurs sublime, pour le film Itinéraire d'un enfant gâté, qu'on
va l'entendre.
Exactement.
Et je vous salue, je vous dis à très vite, Stéphanie Loire.
Bah,
merci
demain.
Pour cette bio musicale de Belmondo. On écoute Nicole Croisi, la chanson s'appelle
À qui me dira ? Sur Europe 1.
Viendra encore me faire le cirque des amours nostalgiques dans la poussière. Qui viendra encore me faire, j'ai peur, le couteau dans le cœur, dans la lumière. Qui viendra traiter en tigresse, le fouet comme une caresse sur la musique. Qui viendra me faire jongler parmi les ballons pathétiques? Des fois, je panique. Qui me dira si bien du mal? Qui me tiendra quand tu iras décrocher toutes les étoiles? Qui me voudra avec le nez? Thank you.
trapéziste. Ça y est, il tombe. Qui viendra encore jouer l'enfant devant les chiens savants ou les vampires? Qui viendra me faire le numéro de la fin pour me séduire dans un sourire? Qui me dira les mots d'amour?
Qui me dira, composé par Francis Lay pour ce film avec Jean-Paul Belmondo. C'était Nicole Croisi sur Europe 1. Dans un instant, Marc-Antoine Lebray pour ses stories où les stars ont beaucoup de choses à dire. Et puis notre invité, toujours Pierre Ninet, avec nous. A tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Pierre Ninet, Boîte Noire, film de Yann Gozlan qui sort demain avec Lou Delage et André Dussolier. Il y a une séquence extraordinaire dans le film, celle où on ouvre la boîte noire. D'abord, extraordinaire parce que je n'en avais jamais vu. Personne ne savait à quoi ressemblait réellement une boîte noire. Et là, quand on l'ouvre, on dirait une opération à cœur ouvert. Ça se passe comme ça dans la réalité?
Mais non seulement ça se passe comme ça dans la réalité, mais c'est des gens du BEA réellement, des enquêteurs, qui font l'ouverture de cette boîte noire dans le film. Donc c'est exactement comme ça que ça se passe. Effectivement, personne ne sait qu'en fait, bah, c'est orange avec des traits fluorescents pour les retrouver le mieux possible dans les débris ou dans les océans quand il y a malheureusement des crashs. Donc en fait, effectivement, on ne sait rien et effectivement, c'est très ritualisé. Il y a la gendarmerie, il y a les compagnies aériennes, les assurances, tout le monde regarde, il y a tout est filmé. C'est vraiment, effectivement, comme une opération chirurgicale, c'est filmé comme tel.
Il faut expliquer, parce que la boîte noire est assez grosse, et c'est un tout petit disque dur, donc il faut ouvrir une couche, puis une couche, puis une couche, évidemment, de protection. Vous êtes à l'affiche de OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire, c'est bien ça, dans laquelle vous challengez Jean Dujardin. Et je me disais tout à l'heure, Jean Dujardin, c'était le nouveau Belmondo.
Et bah, en tout cas, c'est l'héritier un peu, malgré lui aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens estiment que Jean Dujardin est l'héritier direct. On peut comprendre, évidemment.
Vous avez lu la presse ce matin?
Non.
Parce que vous étiez aussi cité, et il y a des gens qui disaient un autre héritier putatif de Belmondo, ce pourrait être Pierre Ninet.
Ah bon, ah ouais. Alors moi je suis super admiratif surtout de sa capacité, enfin la générosité dans ce qu'il proposait, et du fait de passer du cinéma très populaire à du cinéma d'auteur, et puis de jouer avec le corps, évidemment. Moi ça c'est un truc qui me parle énormément. J'ai grandi avec Buster Keaton, l'idée de s'investir physiquement dans les rôles, je trouve ça génial.
Et il y a un rôle pour lequel vous avez pris 10 kilos. De muscles,
ouais.
Pas 10 kilos,
J'ai tout bien reperdu. Ouais. Mais c'était pour jouer un pompier de Paris, ouais, dans Sauver ou Périr.
D'un mot, vous serez dans le nouveau film de Nicolas Bedos, une comédie dramatique mascarade. Le casting, c'est pas rien. Isabelle Adjani, François Cluzet, Emmanuel De Vos et vous-même, ça racontera quoi?
Alors, je peux pas trop en dire. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Non, je peux pas. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire parce que figurez-vous que je finis le film demain. Je retourne à Nice demain finir le film. Mais c'est une comédie noire, un peu cynique, un peu sur des histoires d'amour et des arnaques sur la Côte d'Azur.
D'accord. Merci d'avoir été dans Culture Média. L'émission n'est pas terminée, mais en sachant que vous êtes ici aujourd'hui et demain vous serez à Nice pour le tournage. Marc-Antoine Lebray, bonjour.
Bonjour.
Suite et fin. C'est l'heure des stories de Lebray. De personnalités sont venues exprès pour vous, Pierre Ninet, à commencer par quelqu'un que vous connaissez bien. C'est justement le célèbre agent secret français OSS 117. J'ai nommé Hubert Bonisseur de la Batte.
Oula, pardon, mais ma vision est troublée. Autour de moi, je ne vois que des hommes en train de travailler et des femmes assises à ne rien faire. J'ai certainement dû sombrer dans une dimension parallèle à cause d'un empoisonnement dû à un poison qui empoisonne et qui m'a empoisonné. Sûrement un coup des soviétiques. Il n'y a maintenant plus aucun doute. Je suis dans une dimension parallèle. Oui, et les femmes rigolent alors que ça n'a rien de drôle d'être une femme.
Et d'ailleurs, le réalisateur du dernier OSS 117, justement, on en parlait, Nicolas Bedos, et passez-vous voir, il vient d'entrer dans ce studio.
Effectivement, Philippe, sur le tournage d'OSS 117, j'ai eu la joie d'avoir sous mon aile toute une flopée d'acteurs talentueux, mais aussi Pierre Ninet. Alors ce dernier OSS 117 s'appelle Alerte Rouge en Afrique Noire, un titre qui fait peur autant les racistes que les daltoniens. Et dedans, notre sémillant Pierre Ninet, où il incarne non pas un ongle, mais le jeune agent 1001 qui sonne plus comme le dernier modèle de chez Peugeot que comme un agent secret. Bref, après OSS 117, j'espère rebosser avec Pierre, pourquoi pas sur OSS 118, 119, 120, et surtout sans une pandémie bien relou pour remplir une salle de spectacle, de cinéma.
Et puis il y a le rappeur Booba qui a tenu à passer vous voir, Pierre.
Ok, Non, juste pour dire à Repier que j'ai été étonné par son nouveau fil. T'as deux. Pas besoin de traduire le verlan, les yeux. C'est bon.
C'est bon. Okay.
Non, son film, c'est un crash à rien. Moi, au début, quand j'ai vu La Boîte Noire, je croyais que c'était sur un club de zouk. Easy. D'ailleurs, tu connais la différence entre un crash aérien et une soirée zouk ?
Non.
Après un crash aérien, il y a plein de morts. Et après une soirée zouk, il y a plein de naissances.
Oh.
Ok ? Rafale de punchline dans vos grands-mères qui pensent que Benny B, c'est un rappeur qui aime les filles et les garçons.
Merci Marc-Antoine. Merci beaucoup.
Moi, mon rêve, Marc-Antoine, c'est que tu m'apprennes à faire Vincent Cassel un jour, que je trouve extraordinaire.
En tout cas, je suis hyper content d'être là. Vraiment, parce que en fait, quand je suis rentré dans ce studio, je me suis dit, putain, il y a du talent là-dedans, c'est incroyable. Et je me suis dit, mais c'est fou quoi. Je suis là, Vincent Cassel. Voilà.
Je suis là, Vincent Cassel. Il n'est pas du tout. C'est catastrophique. Je te jure, j'ai regardé des vidéos de toi, je rêvais de savoir le faire parce que c'est gentil, merci. Ouais. Et tu le fais très bien.
Ouais, merci beaucoup.
Merci pour ce compliment, Pierre Ninet. Merci beaucoup, Marc-Antoine. À demain. Culture Média revient à 9h, évidemment. Nous serons avec le directeur général des programmes d'M6, c'est Guillaume Charles. Il va nous raconter, nous parler, nous vanter la nouvelle grille de rentrée de la chaîne. Et puis l'humoriste et désormais comédien Roman Fraissinet pour le film de Mouloud Achour, Les Méchants, qui sort en salle demain, juste après le flash. C'est Julia Vignali qu'on va retrouver et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. Le programme du jour, je ne sais pas comment ne pas faire référence à OSS 117, ce qui vient d'être dit.
Ah bon ? Ouais. Je vois pas le rapport.
C'est quoi le rapport ?
Vous voulez dire, on va parler ménage ?
Ouais.
Mais ça concerne pas seulement les bonnes femmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va parler ménage, ménage vertueux, Mélanie.
Voilà, comment bien choisir ses produits ménagers, c'est important. Est-ce que les éco-responsables, bio, etc., c'est meilleur pour la santé et l'environnement ? On verra ça.
Voilà, le ménage et se faire du bien. En même temps, on va parler aussi d'hypertension. Je sais pas si vous êtes hyper tendu autour de la table.
Il y a 15 millions de Français quand même, donc peut-être qu'il y en a un ici
parmi vous qui l'est.
Là, on est détendu.
Ouais, on va se détendre de toute façon.
Vincent Cassel, vous êtes détendu ?
Moi, ça va. Pierre
Ninet, merci d'avoir été avec nous.
Mais merci à vous.
Boîte Noire, c'est demain dans toutes les salles. Culture Média revient demain. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.